est en lien aussi avec l'exposition proposée par l'INSERM sur l'exposition qui est là-bas, qui a comme base des images de microscopie, puis retravaillées avec, enfin mêlées à des gravures de Jules Verne. Donc ça sera la. Nous allons vous présenter le film lié à cette exposition. Et ensuite, pour parler de la thématique de l'utilisation de l'image des sciences en fiction et pour nourrir l'imaginaire, nous aurons avec nous donc Stéphane Tirard, qui est professeur d'épistémologie. Donc je vous laisse vous présenter rapidement.
Oui, Stéphane Tirard, je suis plutôt épistémologue et historien de la biologie à l'Université de Nantes.
Philippe Poingard, je suis biologiste, chercheur, je dirige une unité INSERM à Tours, où on travaille sur les virus, et donc on génère beaucoup d'images de cellules infectées par des virus. Certaines d'entre elles ont été utilisées pour l'exposition Voyage science-fiction, donc avec les gravures de Jules Verne.
Bonjour, moi je suis Agnès Marcetto, directrice du musée Jules Verne. Et le musée Jules Verne a été, dès l'origine, partenaire de l'INSERM sur le projet science-fiction.
Bonjour, moi c'est Olivier Sauzereau, je suis photographe en astronomie, je travaille entre art et science, mais je finis également une thèse en histoire des sciences sur les observatoires de la marine au centre François-Viète. Et puis je travaille beaucoup également sur l'œuvre de Jules Verne et régulièrement avec le musée Jules Verne et Agnès Marcetto.
D'accord, merci bien. Donc, on ne va pas lancer tout de suite le débat. Avant, nous allons regarder le film, mais... distribuer rapidement les images, et je pense qu'on peut commencer. Alors, pour l'instant, dans les images qu'on sort des microscopes, la plupart du temps, c'est quand même pas encore des images 3D. Si, ça arrive. J'ai vu beaucoup d'images de molécules aussi qui sont proposées en 3D pour avoir une visualisation de la structure moléculaire.
Oui, on peut faire bien sûr des images de molécules en 3D, donc par reconstruction, donc c'est fait par des logiciels en informatique. Pour ce qui est des cellules, ben pour le moment, on ne peut pas faire des photos en 3D, donc c'est de la fausse, c'est de la reconstruction, c'est de l'image qui représente la 3D, mais ce n'est pas de la vraie 3D.
Il y a des microscopies qui permettent d'avoir des visions 3D.
Il y a des microscopes à balayage, effectivement, où on peut avoir effectivement une impression de 3D parce qu'on a un faisceau qui balaye, effectivement, qui donne une image. Ce n'est pas une vraie image de 3D. C'est une représentation en 3D, mais pas une vraie image.
Donc on abordera la notion des représentations. Et voilà. Très bien, je crois que tout le monde a des lunettes. Eh bien, on va pouvoir lancer le film. Merci.
Uma gripe enorme.
Cólera.
It seems to be horribly serious.
A varíola.
La variole.
Le cólera.
C'est le virus terme.
It's urgent.
Está en peligro.
La varicela.
Vous croyez que vous la sauverez?
faire vite.
Miniaturizados.
Merci donc à l'INSERM pour ce film. Alors on va passer la parole à ceux qui ont en amont travaillé sur les images. Donc tout d'abord, on retrouve dans ce film l'esprit un peu du voyage fantastique qui date de 1966, où un vaisseau miniaturisé part découvrir ces nouveaux paysages proposés par l'imagerie scientifique. Mais d'où viennent ces images? Racontez-nous un petit peu votre travail, racontez-nous comment vous avez contribué à ce projet.
Donc là, effectivement, c'est un film qui est un petit peu le prolongement de cette exposition qui avait été réalisée par l'INSERM et dont une partie donc est derrière là, qui mélange des images scientifiques, donc des images faites par des scientifiques, souvent des images de microscopie, puisque c'est souvent des photos de cellules qu'on visualise par différents types de microscopie. Et donc là, à la différence du film qui datait des années 60, là, ça s'appuie sur des vraies images scientifiques sur lesquelles on a ajouté, bien sûr, des gravures de qui constituaient les illustrations des ouvrages de Jules Verne. Donc ce film est finalement un prolongement de cette exposition qui avait été faite par l'INSERM où nous les scientifiques donc nous avons fourni à l'INSERM de très très nombreuses images qui ont été faites dans nos laboratoires, donc dans le mien bien sûr parce que j'en ai fourni quelques-unes, mais aussi dans bien d'autres laboratoires. Donc, dans mon cas particulier, moi, je travaille sur des cellules infectées par des virus, puisque dans mon laboratoire, on étudie la façon dont les virus se répliquent dans les cellules, la façon dont les virus s'assemblent et sont relargués des cellules infectées. Donc, bien évidemment, on ne fait pas ces images-là pour simplement faire des expositions comme ça. Et on fait ces images avant tout parce qu'on a une préoccupation en tant que scientifique de comprendre les mécanismes, bien sûr, sur lesquels on travaille, notamment dans ce qui me concerne, donc comment les virus s'assemblent et comment ils sortent des cellules lorsqu'ils infectent les cellules, avec pour but de comprendre ces mécanismes et de pouvoir, bien sûr, les enrayer avec des nouvelles stratégies. Mais on a fourni, bien sûr, des images à l'INSERM dans le cadre de ces travaux de recherche qu'on mène dans nos laboratoires. Et puis l'INSERM a utilisé quelques-unes de ces images. Ça a inspiré Éric Dehaus à l'INSERM, qui a finalement effectué des montages entre ces images scientifiques, encore une fois faites pour répondre à des questions scientifiques. Il y a ajouté des extraits de gravures, donc des ouvrages de Jules Verne, pour créer ces univers donc un petit peu décalés, je dirais, où finalement un univers de science-fiction où se mêlent des images de la réalité scientifique et puis des images d'illustration d'ouvrages de science-fiction.
Alors moi j'aurais juste une question, là, les images que l'on a vues, c'est les images telles que vous les obtenez au microscope, où est-ce qu'il y a un traitement particulier qui a été fait pour l'exposition ou comment ça s'est passé?
Ce sont des images scientifiques brutes telles que nous on les génère, nous les scientifiques, et sur lesquelles ont été rajoutés des petits extraits de gravures du monde de Jules Verne. Mais ce sont des images de scientifiques.
Ça n'a pas été cherché spécifiquement, vous n'avez pas fait ces images dans le but d'illustrer un phénomène particulier
pour l'exposition.
Pas pour
en tout
l'exposition.
On les a faites pour la science, encore une fois, pour répondre à des questions scientifiques.
Elles existaient dans un fond, mais elles n'étaient pas à vocation esthétique ou à vocation de diffusion grand public d'une histoire.
Non, pas en première intention. Encore une fois, on génère des images pour répondre à des questions scientifiques. Après, quand l'INSERM nous sollicite effectivement pour fournir des images, on ne choisit pas les plus vilaines, bien sûr, on va choisir les plus belles, celles qui nous paraissent les plus esthétiques, parce qu'on sait bien que l'INSERM va les utiliser pour ce genre de choses, pour illustrer finalement des petits textes plus à destinée pédagogique pour le grand public. Donc on imagine qu'ils ont besoin d'images effectivement assez belles. Mais pour la petite histoire, c'est quand même amusant de constater qu'on sait bien, évidemment, quand on fait des photos, celles qui sont esthétiques ou qui ne sont pas. Encore une fois, on ne les fait pas pour faire des photos nécessairement esthétiques, on les fait pour des problèmes scientifiques. Mais moi, j'ai une de mes images qui a été utilisée pour cette exposition Voyage au cœur du vivant. Et finalement, quand on a fait, c'est une image d'une photo, elle n'est pas montrée à l'expo, mais c'est elle qui fait la couverture du livre donc qui correspond à cette expo. C'est une photo où on voit la surface d'une cellule sur laquelle on a des virus qui sont en train de sortir, et ça fait une espèce de paysage lunaire. Et c'est vrai qu'on a Au moment où j'ai fait cette photo sur un microscope électronique, hein, c'est un microscope important, hein, c'est pas un petit microscope de paillasse, c'est un gros microscope qui permet de faire des images donc avec des très forts grossissements qui permettent de voir les virus, bien sûr. On a tout de suite pensé, on était plusieurs à faire cette photo, on a tout de suite pensé à un paysage lunaire. Et puis cette photo, bon, on l'a fournie à l'INSERM sans s'en préoccuper, bien sûr. Et après, Eric Dehaus a posé sur cette photo, si je puis dire, une fusée, une des fusées du voyage de la Terre à la Lune de Jules Verne. Et c'était sans doute évident, mais c'est vrai que nous, on y avait pensé avant même de savoir que cette photo serait un jour exploitée pour cette illustration. Donc, bien sûr, nous ne faisons pas ces photos pour faire ce genre de petits contournements pour en faire des œuvres liées à la science-fiction, mais on y pense quand même un petit peu.
Oui, je crois que devant une image sur laquelle on n'a pas l'échelle et on n'a pas le code de lecture, on peut replaquer une propre histoire. D'accord, merci. Je vais passer maintenant la parole à la directrice du musée Jules Verne. Donc, qui a également participé. Donc, vous nous expliquez un peu comment votre organisme a travaillé, enfin, comment le musée Jules Verne, comment l'imagerie qui existe chez Jules Verne a été utilisée, puis peut-être aussi comment Jules Verne déjà travaillait avec les images de science, comment les romans ont été illustrés en utilisant des images de science de son époque.
Alors, en fait, le musée Jules Verne a répondu à une demande de l'INSERM. Le musée Jules Verne répond tous les jours à des demandes d'iconographie parce que effectivement les illustrations qui accompagnent les romans ont une telle richesse et une telle puissance d'évocation qu'elles sont encore d'actualité. Si on se reporte à ce qu'est l'illustration au moment où Jules Verne publie ses œuvres, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait l'illustration s'inscrit totalement dans le projet éditorial qui, avant d'être celui de Jules Verne, est celui de Hetzel, son éditeur. C'est un projet qui ne se résume pas en un mot, mais qui, pour le propos qui nous intéresse plus particulièrement, est un propos didactique, c'est-à-dire comment la fiction va être mise au service de la science étant d'ailleurs comprise dans toutes ses disciplines. La mission de Jules Verne, telle que Hetzel la lui confie, c'est de créer une fiction qui permette de faire passer du savoir et de l'information. Donc ce qu'il disait le plus souvent, c'est qu'il mettait la science sur le fil du voyage. Et c'est ainsi qu'il emmenait ses lecteurs et qu'il continue à nous emmener aujourd'hui vers une information que, je dirais, on intègre sans s'en apercevoir. Donc l'illustration, elle sert à ça. Alors évidemment, quand on regarde ces illustrations, quand on regarde ce film, ça nous renvoie aussi à deux dimensions très, très importantes dans l'approche qu'on a aujourd'hui de l'œuvre de Jules Verne, qui est d'une part l'intertextualité. Déjà lui-même, il s'inscrivait dans un contexte, et aujourd'hui il s'inscrit dans un autre contexte. Donc comment tout ça se répond ? Et puis aussi les produits dérivés. Voilà. Jules Verne a cette caractéristique qui explique en grande partie son actualité toujours renouvelée, en fait, d'inspirer énormément de produits dérivés. Alors quand on dit Jules Verne, c'est la marque. De toute façon, c'était déjà comme ça qu'Hetzel l'utilisait. Mais autour de Jules Verne, il y a tout le contexte. Il y a l'éditeur qui a son projet, il y a ce qu'était la vulgarisation scientifique à son époque, il y a le génie de l'écrivain, qui quelquefois est plus grand que ce que l'écrivain pense lui-même d'ailleurs, et puis il y a tous ces illustrateurs qui ont fait un travail absolument remarquable, tous ces gens travaillant d'ailleurs en équipe. Donc je dirais que ce qui se produit aujourd'hui, c'est vernien par excellence. C'est vraiment ça continue à faire vivre cette œuvre et ça nous rappelle comment elle est toujours d'actualité et ça nous explique pourquoi on s'y intéresse encore aujourd'hui.
D'accord. Et merci. Donc là, on a bien situé comment l'utilisation des images de science était tout à fait dans la logique du travail de Jules Verne sur ce projet qui se veut aussi un projet didactique tout en utilisant la fiction. Donc il y a tout un travail entre l'utilisation de l'image de science, la volonté de vulgarisation scientifique, l'utilisation du récit pour faire passer des idées alors après, comment c'est reçu ça, c'est peut-être des analyses après coup de l'exposition. Qu'est-ce qui passe vraiment dans les romans de Jules Verne? Ça, je crois que ça a été aussi pas mal étudié. On va passer peut-être à des personnes qui n'ont pas participé à ce projet, mais qui sont aussi à la croisée de la culture scientifique, de la production d'images. Donc, vous êtes photographe et en même temps astronome amateur et doctorant pour l'instant, préparant une thèse en histoire
des sciences.
En histoire des sciences, donc ça fait quand même beaucoup de choses. Vous êtes vraiment à l'interface de beaucoup de disciplines. Vous pourriez nous parler de votre travail aussi bien de photographe que d'astronaute?
Ben, oui, c'est éventuellement la puissance d'évocation d'une image. J'ai envie de donner deux exemples ou trois peut-être rapidement. Moi, j'ai découvert l'astronomie à l'âge de 12 ans grâce à une conférence d'Hubert Reeves, qu'on ne présente pas. Et ce qui m'a fasciné dans cette conférence, c'est deux choses. Son discours, bien entendu, mais dans mon regard d'enfant, ça a été la beauté extraordinaire des images de l'univers qu'il projetait, qui étaient à l'époque, c'était en 1979, des images qui étaient parmi les plus belles réalisées par les télescopes géants à l'époque. Donc, il montre bien que dès le lendemain, je savais que ma vie serait consacrée à l'astronomie. Donc, vous voyez, la puissance d'évocation, effectivement, d'une image qui émeut, c'est de l'émotion. Et on a envie de comprendre ce qu'elle signifie. Et je me suis tourné plutôt vers la science. J'aurais peut-être pu faire de la science-fiction, éventuellement, à partir de ces images. Un autre exemple, éventuellement, c'était il y a au mois de juin, 4 juin dernier, depuis mon propre observatoire qui est en Vendée. J'ai photographié une galaxie qui s'appelle M51, qui est située à 35 millions d'années de lumière. Et sur cette photo, eh bien, apparaît une étoile qui n'était pas là quelques jours auparavant. Alors, je n'étais pas le découvreur, malheureusement, de cette étoile, puisque la découverte avait été faite à peu près 48 heures auparavant, donc j'ai raté la découverte.
Vous avez loupé la paternité de
cette nouvelle étoile, qui n'était pas une nouvelle étoile, qui était en réalité une supernova, mais qui, sur la photo, apparaissait comme une nouvelle étoile, était en fait la signature d'un phénomène extraordinaire parmi l'un des plus fantastiques dans l'univers, qui est l'explosion d'une étoile, d'un soleil, qui est un phénomène qui donne la luminosité égale de plusieurs dizaines de milliards de soleils, et qui sur ma photo apparaissait comme un petit point de lumière. Et dès la nuit suivante, évidemment, j'ai repointé mon télescope, sachant où était cette supernova, j'ai cherché à la voir visuellement, et je peux vous dire que je suis resté au moins une heure juché tout au long de mon escabeau à regarder cette toute petite étoile qui n'apparaissait seulement depuis quelques jours, mais dont l'explosion en réalité s'était produite il y a 35 millions d'années, puisque la lumière avait mis 35 millions d'années pour nous parvenir. Et là, votre imagination, elle gambade. Vous vous imaginez, bien entendu, le moment de l'explosion, comme si vous aviez été dans un vaisseau spatial, non loin, enfin suffisamment loin quand même de ce soleil, un monde qui disparaît. Et je pense que si j'avais été un auteur de science-fiction, une histoire extraordinaire certainement serait née de cette image.
Je crois que de toute façon, cette histoire, vous voulez créer juste avec un petit point lumineux sur votre télescope, ça a généré tout un imaginaire.
Tout un imaginaire grâce à la connaissance, bien entendu, scientifique que l'on a de ce petit point de lumière.
Et par ailleurs, vous avez un autre travail vraiment de photographe indépendant, enfin pas indépendant. Alors, du télescope, si peut-être plus éloigné de l'instrument télescope.
Oui, voilà. Effectivement.
Qui néanmoins reflète votre sensibilité, oui. Votre culture scientifique se retraduit, mais d'une façon indirecte.
Je suis devenu depuis 20 ans, on va dire, un artiste photographe. C'est mon statut principal, d'ailleurs, officiellement, où je travaille à la chambre photographique. Là, donc, nous ne sommes plus au télescope, on n'est plus avec des instruments scientifiques qui grossissent. Donc, je travaille avec une chambre photographique. Ce sont des plaques photo qui font 9 cm sur 12. Et je voyage à travers toute la planète pour photographier des événements astronomiques avec une recherche artistique. C'est-à-dire que j'associe ces phénomènes astronomiques dans le paysage dans lequel je suis en train d'observer, mais sans trucage. Donc évidemment, cela nécessite de faire des calculs, de faire des repérages, et la science va me permettre de composer à l'avance mon image, tel un peintre qui va réaliser sa composition avant de traduire par la peinture également le tableau qu'il veut réaliser. Donc c'est un travail entre art et science, science et art.
D'accord. D'accord. C'est dommage, vous n'avez pas d'image.
Désolé, il y a un mois, il y avait le congrès de planétologie. Donc là, j'avais ici, exactement ici, toute une exposition
de
mes photographies. Ben oui.
D'accord. Oui, donc on voit bien comment votre culture scientifique nourrit votre travail artistique. Et inversement, est-ce que votre regard de photographe change votre point de vue sur les images de science que vous générez ?
Oui, bien entendu. Enfin, ces images, on peut les regarder de plein de manières différentes. On peut à la limite les mettre dans une galerie d'art, mais je sais que ça a déjà été fait pour des images de science pures également, enfin en tout cas dans des expositions artistiques. Ce qui est très intéressant, c'est que grâce à ces images, on peut émouvoir un public éventuellement qui va trouver cette image très très belle. Ce qui est intéressant, c'est ensuite la clé de lecture. Donc ce sont des images d'art, on va dire, mais qui amène aussi à parler finalement de science.
D'accord. Oui, donc à nouveau, on a cette image qui sert de base à des tas de choses autour, soit à l'imagination d'un fil romanesque, oui. Soit pour repartir vers d'où ça vient, donc des explications peut-être plus scientifiques. Donc l'image est à la croisée entre...
Pour réaliser une photographie, une de mes photographies à la chambre, je vais me servir de la science pour réaliser cette image, qui est au bout du compte une image artistique, qui n'a absolument aucun objectif scientifique. Hein, aucun,
oui,
voilà,
oui.
Là, on est totalement
oui,
différent.
D'accord, oui, vous ne cherchez
travail,
pas. Voilà.
Voilà. Ce n'est pas un travail de chercheur, en l'occurrence, c'est un travail de
tout
photographe.
Fait.
Mais ensuite, cette photo peut nous parler de science.
D'accord. Mais merci bien. Alors, suite aux différentes interventions, je pense qu'un chercheur en épistémologie, en histoire de la biologie, va avoir, ça doit vous faire réagir. Hein. Donc, je vous laisse la parole.
Merci. Alors, je n'ai pas participé à la conception de cette expo ni du film. Je ne produis pas d'images scientifiques. Et en plus, j'ai découvert le film avec beaucoup de plaisir il y a 10 minutes, comme vous. Donc ce sont des réactions à chaud que je vous livre là, effectivement. Bon, j'ai beaucoup apprécié cette superposition entre cette imagerie qui nous vient directement de l'œuvre de Jules Verne, qui est, je pense, très significative pour chacun d'entre nous. Nous associons ces gravures immédiatement à l'œuvre de Jules Verne, ça fait partie de notre patrimoine culturel commun. Et puis la superposition de ces images de biologie issues de l'activité de scientifiques à la pointe de la technique d'observation. Et donc ce collage est tout à fait spectaculaire, effectivement, c'est le but, puisque l'intention de l'INSERM, je pense, est bien de communiquer de la science, de diffuser de la science autour d'une production comme celle-ci. Et donc évidemment, en tant que épistémologue et historien des sciences, je vais peut-être me détourner de l'intention de l'INSERM. Et ce qui m'intéresse, c'est d'une part ce que cela nous dit sur l'œuvre de Jules Verne lui-même. Qu'en est-il, Agnès Marsotto l'a abordé tout à l'heure, qu'en est-il finalement de la réflexion que nous pouvons mener sur l'œuvre de Jules Verne au travers d'une production comme celle-ci ? On voit bien que si ce collage a été possible, c'est que l'œuvre de Jules Verne se prête à ce rapprochement avec la science la plus contemporaine, la science actuelle. C'est donc que quelque chose de sa représentation de la science, de la technique, mais également de l'exploration, qui avait un sens particulier à cette époque, et peut-être pas si éloigné que ça du sens actuel, d'ailleurs, il faudrait travailler cette question. Eh bien, s'adapter à des objets qui étaient ceux de son temps, une représentation du monde qui était celle de son temps, et finalement s'adapte encore aujourd'hui à cet aspect du monde que l'INSERM veut nous montrer au travers de ses photographies. Donc, une sorte d'universalité, en quelque sorte, de l'œuvre de Jules Verne, de sa méthode, et de certaines des représentations qui étaient les siennes. Le fait que ce film porte en fait sur une exploration, je trouve, donne une image assez intéressante au public de la science actuelle, pour rappeler finalement que continuellement la science nous permet de découvrir c'est une image, c'est métaphorique, mais des territoires nouveaux, des formes nouvelles, des objets nouveaux que l'on va encore aujourd'hui, aidé par une technique toujours plus pointue, pouvoir voir avec ses yeux. Olivier vient de dire à l'instant à quel point ça a été un plaisir immense pour lui de pouvoir faire une observation directe de cette étoile en train d'exploser, tout en étant en équilibre sur ton, sur ton, sur ton escabeau, ce qui donne encore plus de réalité à la chose. Et je pense que il est intéressant au travers, au-delà de l'aspect, je dirais, purement cognitif qui consiste à montrer à quoi ressemble telle cellule ou tel autre tissu au travers de ce film, ce qui est parfaitement informatif, de montrer au public que la science continue à explorer, à aller de l'avant et à découvrir de nouvelles choses qu'il faut décrire, penser et qui peut-être, le cas échéant, peuvent remettre en question ce qu'on avait déjà élaboré et structuré dans une, notre connaissance scientifique.
Merci. Donc, là, on vient d'avoir un peu vos réactions. Ce que je vous propose, c'est d'avoir peut-être quelques questions du public sur l'impact au niveau de l'imaginaire des images générées par la science aujourd'hui. Donc, s'il y a une question. Oui, Gérard Klein.
Alors, ce sera plutôt une remarque qu'une question, quoique peut-être une question en découlera. Il y a déjà quelques années, j'ai publié dans La Recherche un article sur les relations entre science et science-fiction, en insistant sur le fait que cette relation passait par des images, au double sens du terme, des représentations, qui peuvent être des représentations très abstraites, de structures très abstraites, et des images, comme les images scientifiques que vous avez montrées, enfin, exemple, qui étaient proposées dans le temps par Images Médias CNRS, enfin, etc. Donc, c'est deux aspects. La science-fiction n'aborde presque jamais, même dans la hard science, les concept profond de la science, parce que non, peut-être pas de dimension romanesque où ils sont trop difficiles à saisir. Mais en revanche, il y a des représentations, celles que propose le modèle planétaire de l'atome qui a été abandonné, on le sait, puis, mais qui a inspiré très vite un certain nombre d'œuvres littéraires, ou beaucoup plus récemment, des variations sur ce que propose la physique quantique. Donc cette idée des représentations et des images proprement scientifiques. Alors, la question qui en découle, c'est qu'est-ce que nous pouvons espérer dans vos disciplines comme un bouleversement dans la représentation et dans l'imagerie scientifique.
Oui, donc, alors, à cette question qui, au niveau de l'impact des images de science, des images au sens général, hein, ça peut être des modèles sur les représentations qu'on va se faire du monde des qui nous entoure, sur l'imaginaire. Alors, je ne sais pas.
Moi, je vais réagir en tant que biologiste et biologiste cellulaire. La grande révolution dans le domaine de la microscopie actuellement, c'est de pouvoir suivre des cellules vivantes. C'est vraiment ce qui explose actuellement, et de pouvoir suivre finalement des toutes petites molécules dans ces cellules et de voir ça en dynamique. Maintenant, on arrive à rendre des toutes petites molécules fluorescentes et à voir comment elles peuvent se comporter dans la cellule. Donc, si on est au-delà de l'image, on est dans le film finalement et dans la vie même de la cellule qu'on peut voir sous nos yeux, y compris voir comment se comporte l'infiniment petit dans la cellule en dynamique. Et ça va générer des informations scientifiques très importantes dans les années à venir. Je ne suis pas un auteur de science-fiction. Est-ce que ça va inspirer les auteurs de science-fiction? Pourquoi pas? Moi, je pense que oui, parce que toute cette révolution technologique doit forcément influencer notre façon de percevoir les choses. Ouais. On va aller de plus en plus vers la compréhension de l'infiniment petit dans sa dynamique, dans la vie de la cellule.
Et il y a également des choses sur les temps extrêmement courts. J'ai vu encore récemment des informations sur la photographie de ce qui se passe au niveau d'un atome, au niveau de l'attoseconde, pour voir comment un atome absorbe la lumière et est modifié à des échelles de temps extrêmement petites, bien en dessous des nanos. Donc on sent bien qu'on a encore une marge de découverte sur les temps, enfin, sur l'infiniment petit, mais également sur l'infiniment court, mais aussi sur le très lointain, on voit qu'on change notre vision du monde. Alors bien sûr, dans l'histoire des sciences, il y a eu des remises en cause du système géocentrique pour un système héliocentrique. Vous imaginez un peu le coup qu'on reprend quand on sait qu'on n'est plus le centre du monde. Mais ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est des nouveaux systèmes, des exoplanètes, des possibilités d'envisager d'autres mondes. Donc on a comme ça en permanence des images qui nous viennent des sciences qui remettent en cause notre perception de la place de l'homme dans l'univers. Donc des deux côtés, aujourd'hui on est en permanence bouleversé par les images des sciences. Alors je ne sais pas où Stéphane Tirard, vous, par rapport à l'évolution de la biologie, je crois qu'il y a eu aussi des choses importantes. Enfin, si vous voulez répondre, vous voulez l'un ou
l'autre. Donc c'est sûr. Je crois que monsieur voulait.
Oui. Ça passe pas.
Ça y est, il m'est revenu une question alors, destinée à informer une nouvelle de science-fiction que j'ai l'intention d'écrire et qui est la suivante. Alors, le biologiste pourra peut-être m'aider à cerner cette question. Nous savons que dans l'eau de mer en particulier, mais pas seulement, il y a des populations de virus considérables. Je lisais il y a quelques jours que dans un litre d'eau de mer, on avait relevé entre 1 et 100 millions de virus. Alors, ma question que j'ai posée à des spécialistes de Harvard et qui ont été incapables d'y répondre, c'est combien ça pèse ?
Les virus ?
Oui, enfin, donc, admettons qu'il y ait entre 1 million et 100 millions de virus dans un litre d'eau de mer. C'est l'expédition qui circumterrestre là, d'une goélette qui semble avoir relevé ça. Enfin, on sait de toute façon qu'il y en a des masses et des masses. Mais c'est quoi ? C'est un nanogramme ? C'est un microgramme ? C'est certainement beaucoup moins qu'un milligramme.
Mais vous êtes dur avec moi, même si les biologistes d'Harvard n'ont pas su répondre à ça.
C'était pas un spécialiste de la question.
Non, il faudrait faire des calculs. Comme ça, je peux pas vous répondre comme ça. Il faudrait faire des calculs. Ça doit pouvoir se calculer, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr que ça doit pouvoir se calculer. Là, de tête, j'arriverai pas à vous faire ça. Mais c'est vrai que c'est un monde extraordinaire, ce monde des virus dans le monde marin. Même dans notre propre corps, on sait. Pertinemment, on connaît bien la flore bactérienne. On a vraisemblablement une flore virale, mais qui est très mal connue. Le monde des virus, c'est un univers extraordinaire pour lequel il reste encore énormément de découvertes à faire. Et je vous encourage volontiers à faire cette nouvelle, à écrire cette nouvelle. Oui. Parce que je suis sûr que ce monde des virus, il est fascinant en plus. Il fascine le grand public.
En 1967, j'avais publié une nouvelle qui s'appelait « Les virus ne parlent pas ». Et qui racontait, je dois dire pas mal de succès modestement, et qui racontait que l'évolution avait été contrôlée par les virus de façon, ils avaient créé toute la vie de façon à disposer d'instruments macroscopiques. C'est-à-dire, nous sommes en quelque sorte leur télescope, leur gigantesque manipulateur, leur cerveau artificiel, enfin, etc. Mais que malheureusement, ils avaient disparu parce que les humains avaient inventé l'alcool. Alors, je voulais donner, donc, plus de 40 ans après, une suite à cette nouvelle. Les virus mènent la danse parce qu'ils sont toujours là et ils contrôlent toujours l'évolution. C'est pour ça que j'avais besoin de cette estimation à la louche.
Je vous ferai le calcul, je vous promets.
Voilà. Bah, écoutez, je vous donnerai ma carte tout à l'heure. D'accord. Je mettrai un mail. Merci beaucoup.
Et je comprends la nature de la question, parce que quand on sait, par exemple, qu'un être humain contient entre 2 et 3 kilos de bactéries sans lesquelles il ne vivrait pas, c'est quand même un chiffre qui est impressionnant. Voilà. Mais on va peut-être continuer sur... Oui.
J'ai la parole. Mais précisément sur cette histoire des passagers de notre corps, dont le nombre de cellules est plus important que celui qui compose à proprement parler notre corps. Donc nous avons des passagers, nous sommes des espèces d'astronefs hein, dans le, qui ont des populations gigantesques de passagers. Alors, j'avais fait une estimation de Cointable qui était entre 2 et 4 kilos. Et précisément, un médecin de Harvard, Skernick, m'a confié, il a dit, ah ben, je ne me suis jamais posé la question. Après avoir un peu réfléchi, il m'a confirmé que mon estimation était bonne. J'espère qu'on me donnera le Nobel un jour.
Et donc, je vous laisse.
Je réagis par rapport à votre première intervention. Je suis tout à fait d'accord avec vous, évidemment, quand vous dites que sur quoi se fonde la science-fiction. Mais peut-être que vous êtes un petit peu dur à l'égard de la dimension conceptuelle de la science sur laquelle la science-fiction me semble quand même s'appuyer. Vous venez d'en faire la preuve vous-même à l'instant en disant que vous aviez imaginé que les virus pouvaient intervenir dans l'évolution. À ce moment-là, on n'est pas dans le fait précis biologique, mais dans une réflexion plus conceptuelle sur la science et qui me semble extrêmement nourrissante, en quelque sorte, pour la fiction. Et certaines œuvres très célèbres, comme par exemple « Le meilleur des mondes se basent plus finalement sur un jeu avec des concepts autour de la reproduction que sur les aspects techniques qui, dans leur description, sont assez légers. Et pour ne pas regarder toujours que du côté de la science, des sciences expérimentales, il faut se souvenir finalement que Asimov fonde, si j'ose dire, toute la narration, toute l'histoire de Fondation sur une transgression des concepts fondamentaux de l'histoire, puisque avec sa psychohistoire, la prévision devient possible, et là, il transgresse sur le plan épistémologique quelque chose de très fort, qui sont les fondamentaux de l'histoire. Donc, le jeu avec les concepts, me semble-t-il, peut jouer un rôle très important dans le développement de la fiction. Peut-être finalement autant ou au moins sert de contexte très riche pour que se développe ensuite toute une imagination autour d'un aspect plus technique et plus précis.
Et toujours sur les concepts, enfin sur lorsque vous imaginez des histoires à partir d'un petit point lumineux. Enfin, des histoires, pas forcément des fictions romanesques, mais vous inventez tout ce qui s'est passé au niveau de ce système planétaire en voyant cette supernova. Derrière, il y a quand même tout ce qu'on sait aujourd'hui de ce que ça veut dire. Vous n'auriez pas eu toute votre connaissance scientifique, ce petit point qui était apparu, vous auriez pu lui donner mille autres interprétations.
Bien entendu, la première fois dans... On va dire dans le monde occidental proche, en 1572, où un tel phénomène a été visible à l'œil nu, puisque c'était une explosion d'étoiles dans notre galaxie, c'était Tycho Brahe. Et effectivement, ça a été un choc total, parce que c'était en totale opposition avec ce qui était quasiment constitué comme un dogme, comme quoi rien ne pouvait apparaître ou disparaître dans le ciel, dans le monde supralunaire, et tout d'un coup, une nouvelle étoile incroyablement lumineuse apparaît dans le ciel. Quel est cet astre? On l'appelle une nova, justement, latin, nouvelle, une nouvelle étoile. Et il faudra attendre fort longtemps pour comprendre qu'en réalité, il s'agit de la mort d'un soleil. Je rebondis juste sur une autre chose auquel je pense tout d'un coup. C'est qu'effectivement, ce petit point de lumière, pour revenir, mais là, il y aurait plein d'autres exemples qui entraînent une imagination où on se dit, mais quel est ce monde? À quoi ressemble exactement cette explosion? Quels sont les paysages que l'on pourrait y trouver si on était une planète comme sur un balcon face à l'explosion? Eh bien, il y a eu l'idée, évidemment, de retranscrire par une image, par une peinture, par une illustration des paysages auxquels on n'a pas accès, mais dont un certain nombre de données scientifiques nous permettent néanmoins de répondre à un certain nombre de questions et de tenter d'imaginer à quoi cela doit ressembler. Eh bien, ce concept de ce qu'on va appeler la peinture astronomique a été inventé par un Français, peu connu, mais qui est assez connu aux États-Unis, qui s'appelle Lucien Rudeau. C'est un personnage qui est mort dans les années 1940, que personnellement j'aime beaucoup, qui est un artiste, famille d'artistes peintres, mais qui lui-même est un astronome amateur de très haut talent, vulgarisateur, qui se crée son observatoire à Donville, qui va devenir un auteur d'ouvrages de vulgarisation de l'astronomie, et qu'il va entièrement illustrer de peintures, d'illustrations qu'il va réaliser lui-même, où il représente des mondes, des paysages, des planètes, où naturellement dans les années 1920-1930 nous ne sommes pas allés, mais dont un certain nombre de données scientifiques nous permettent néanmoins d'évoquer par l'image à quoi cela ressemble.
Il y a également un autre domaine dans lequel les images de science ont pu nourrir l'imaginaire. C'est les premières fois que des bestioles microscopiques ont pu être observées. Là, on a eu l'impression de découvrir qu'il y avait tout un monde qui nous échappait. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà un peu étudié les...
Oui,
parce que ça donnait lieu à des bestiaires imaginaires aussi, on peut...
Oui, effectivement, dans la deuxième partie du XVIIe siècle, quand on invente la microscopie, ancêtre des techniques que vous utilisez quotidiennement, on découvre un monde nouveau. Le regard peut se porter sur une échelle qui permet de découvrir des objets dont on ignorait précédemment complètement l'existence, naturellement, des formes nouvelles, des petits êtres qui semblent indépendants. Et il faudra des décennies, voire des siècles, pour arriver à mettre des concepts justement sur ces objets et sur les éléments qui composent ce monde nouveau.
Oui, donc on avait les images, l'imaginaire lui a donné a créé des histoires autour de ces images, mais les concepts n'étaient pas encore là. Et c'était le cas aussi pour les premières supernovae qui ont été observées. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? On a encore le temps pour une question. Oui ? Oui, deux.
Oui, je ne sais pas si c'est à proprement parler une question, mais en tous les cas, en vous écoutant, ce qui m'interpelle un peu, c'est qu'est-ce qui distingue finalement l'intuition de l'imagination ? Que ce soit dans le champ de la recherche scientifique, que ce soit dans le champ pour rendre accessible sans doute à des contenus un peu invisibles par définition, les choix de systèmes de représentation qui, globalement, passe quand même par les techniques liées à la photographie.
Très bonne question. Qui veut...
C'est pas facile de répondre à ça, hein, mais je dirais que bon, dans une approche de chercheur en biologie, l'image est une des façons d'aborder les choses, mais c'est pas la seule. Il y a aussi des approches biochimiques, et c'est souvent un faisceau d'informations obtenues par différentes techniques qui vont nous permettre de répondre à une question par rapport à un mécanisme donné dans la cellule. Mais votre question est intéressante parce que j'ai quand même envie de rebondir là-dessus pour dire que l'image est importante. C'est-à-dire que de plus en plus, nous les chercheurs, quand on doit convaincre la communauté scientifique d'un mécanisme qu'on a découvert, eh bien, l'image va être fondamentale, très importante pour convaincre. Ça ne sera jamais la seule, ça ne sera jamais le seul argument pour convaincre, mais ça en sera un très important. Le pouvoir de l'image est très important.
Monsieur Thirard ?
Pardon. Je pense qu'effectivement, le pouvoir de l'image est très important, tout simplement parce qu'il concerne la question du sensible. Et que la seule chose qui puisse être partageable, c'est la question du sensible. Or, lorsque l'on est dans des engages ou dans des niveaux de compréhension à ce degré d'abstraction, quel que soit aujourd'hui le champ d'implication des sciences, je crois que le problème de fond, c'est qu'on n'est plus justement dans l'ordre du représentable. Donc comment rendre sensible quelque chose qui n'est plus de l'ordre du représentable, sinon en ayant recours finalement, encore une fois, à ce qui a fait les belles heures des systèmes de représentation que tout le monde comprend. Et je trouve que de ce point de vue-là, évidemment, Jules Verne est exemplaire. Je crains aussi qu'il y a peut-être besoin de renouveler les codes images pour maintenir au même niveau d'exigence cette possibilité de partage du sensible.
voulez réagir sur... Non, non, je... Oui, Gérard.
Excusez-moi, non, ce qui m'étonne dans cette table ronde qui a été passionnante de bout en bout, c'est que, sauf erreur de ma part, où je suis arrivé trop tard, il n'a jamais été question de la dimension de la simulation, qui est très importante en science, et en particulier, qui devient de plus en plus importante en mathématiques, et en mathématiques appliquées, ce qui me touche de plus près. Enfin, la simulation... Est un immense domaine qui a explosé au cours des 20 dernières années et qui, à mon avis, change pour les scientifiques eux-mêmes. Je ne parle pas seulement du grand public, mais, comment dirais-je, l'approche, enfin, d'un certain nombre de phénomènes.
Donc, là, c'est vrai qu'il y a des points très importants, par exemple, sur la représentation qu'on peut avoir des molécules entre des images obtenues de façon... enfin, par différentes techniques d'imagerie et des choses qui sont obtenues par calcul. Et le mélange des deux fait qu'aujourd'hui, quand on présente une image de science, c'est pas toujours très clair de savoir dans quel niveau, sur quelle image on présente, comment on les obtient. On produit beaucoup d'images, mais on forme très peu à l'interprétation et à la compréhension de l'histoire et du codage de l'information qui est contenue dans cette image. Alors je ne sais pas ça au niveau. Alors il y a aussi le problème des fausses couleurs, ça sert pour.
Oui, ça me fait penser effectivement au documentaire de culture scientifique. C'est un des reproches que je fais parfois effectivement quand je regarde des documentaires. Je pense naturellement à ceux sur l'astronomie, c'est que ces documentaires, par nécessité, bien entendu, sont entremêlés d'images réelles et d'images de simulation, effectivement, ou d'images artistiques, et que, très malheureusement, bien souvent, alors que ce serait assez facile qu'il y ait un code de lecture qui permette de voir lorsque l'on passe d'une fausse image ou d'une image de représentation ou numérique ou artistique à une véritable photographie, et je pense que très souvent, le spectateur ne sait plus quelle différence faire, et je vois bien souvent dans des stages que j'organise en astronomie, des gens qui sont totalement persuadés que, au départ, des photos de véritables images que je leur montre, prises par des sondes spatiales, des télescopes Hubble, etc., sont des images totalement fausses. Donc il y a une problématique dans la culture scientifique, dans la médiation scientifique, effectivement, dans ce florilège d'images. Mais on pourrait parler aussi des films de reconstitution historique qu'on voit le samedi soir sur Arte, où quelquefois on ne sait plus quelle est la vraie image d'une fausse. Je pense à un film qu'il y a eu là sur les témoins de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un moment donné, je ne savais plus si c'était une vraie image, une image reconstituée.
Oui.
Bon, voilà. Là, on va en dehors de la science, mais c'est un peu le même problème.
Il y a des choses qui ne sont pas imageables, que l'on veut représenter, que l'on peut calculer et qu'on va représenter d'une autre manière.
Mais c'est important dans la médiation scientifique d'être clair, je pense.
Tout à fait. Il y a un vrai besoin de formation à la compréhension des images qu'on nous offre. Je vois que le temps est quasiment fini, donc si vous voulez encore... conclure, mais je crois que c'est très riche et là, la dernière question peut ouvrir tout un débat. Enfin, les deux dernières questions, je crois qu'on peut recréer une table ronde sur ces problèmes-là. En tous les cas, merci de votre attention et on va laisser la place à la prochaine table ronde.